la semaine dernière et la semaine avant, nous avons cherché à viser notre raison d'être suivant la parole de Dieu. Et nous avons trouvé que Dieu a créé l'univers pour sa propre gloire. Dieu cherchait sa propre gloire. C'est très normal que Dieu, l'être le plus glorieux en existence, cherche la gloire de l'être le plus glorieux lui-même. Pourquoi l'homme existe? Pour glorifier Dieu. Pourquoi Dieu existe? Pour se glorifier lui-même. Étrange. Pour nos esprits bloqués, encadrés dans notre état, éloignés de l'état dans lequel Dieu a créé l'homme au début. Mais j'ai dit quelque chose que je vais reçu de quelqu'un d'autre qui mérite être répété en quatre phrases. J'avais dit ceci, en tant que chrétien, en tant que celui qui croit la parole de Dieu, vous ne savez pas tout, mais vous savez quelque chose à propos de tout. Vous savez pourquoi chaque chose existe. Et ça c'est pour refléter et magnifier la gloire de Dieu. Vous ne savez pas tout. Il y a 10 milliards de choses dont vous ne savez rien du tout déçu. Mais vous savez une chose déçue, pardon. Vous savez une chose déçue. En plus, la chose que vous savez déçue est fondamentale, élémentaire, basique, sans lequel il n'y a aucune base pour aucune formation ou éducation. Vous savez que cette chose, quoi que ce soit, existe, afin que Dieu, à travers cette chose, soit glorifié. Une merveilleuse pensée, n'est-ce pas? Parce que Apocalypse dit, et à travers toute la Bible, nous avons vu il y a 15 jours, surtout les versets dans l'Ancien Testament, surtout en Ésaïe, mais et dans les prophètes, verset après verset, qui parlent du fait que le peuple d'Israël ont été choisis et mis et protégés, gardés malgré la turbulence qu'ils connaissaient et qu'ils connaissent jusqu'à présent. Dieu leur a créé pour sa propre gloire. Et puis, dans le dernier livre, pourquoi glorifier Dieu? Parce que il est digne, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Maintenant, nous avons deux personnes de la divinité qui s'impliquent dans ce verset 3. Jésus, tu, Seigneur, Dieu, digne de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, parce que tu as créé toutes choses. De qui recevrait lui la gloire, pas la puissance, la gloire, à part lui-même, de sa création. Tu as l'honneur de le recevoir, parce que tu l'as créé, et c'est par ta volonté que ces choses existent et qu'elles ont été créées. En l'an 42, après Jésus-Christ, il y avait une chose assez étrange qui était arrivée, et c'est dans la Bible. C'est en Actes chapitre 12, où Hérode, le roi, avait tué Jacques, un des disciples. Ça, c'est pas étrange. Les rois tuent toujours des disciples à travers les âges. Voyant que les Juifs étaient contents, il a saisi Pierre, et un jour, le lendemain, il allait le faire tuer. Mais vous le savez, n'est-ce pas, Actes chapitre 12, miraculeusement, un ange l'a fait sortir de la prison, l'a amené chez Jean-Marc, la mère de Jean-Marc, où beaucoup de monde priait pour sa délivrance. Il a été délivré. Ça n'est pas étrange non plus. Dieu délivre ses enfants très souvent par des miracles. Pas toujours, mais des miracles arrivent. Et ce n'est pas étrange ça. Pierre est rentré, sorti de la ville pour se sauver la vie, pour rester en cachette. Hérode, le roi, est allé à Césarée, parce que si vous voulez tourner avec moi en Actes chapitre 12, verset 5, je ne l'ai pas mis sur l'écran, et en Actes chapitre 12, verset 20, pardon, Actes 12, 20, Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens, des Sidoniens, mais, et je ne vais pas lire les prochaines deux ou trois versets, à travers Blast, un ami qui était ami de Hérode et aussi ami de Jean de Tyr et de Sidon, il avait fait un compromis. Hérode était en colère contre eux pour une raison qui n'est pas donnée, mais il dépendait sur lui pour leur nourriture. Donc, il voulait faire quelque chose pour que Hérode les aime. Et Blast a accompli ce mouvement délicat, politique, et Hérode descendait à Césarée pour se présenter devant les Tyriens et les Sidoniens. Et quand il a commençait de parler ou continuait de parler, on ne sait pas combien de minutes il était dans son speech, bien décoré, bien habillé. Les gens commençaient à crier, c'est un Dieu, ce n'est pas un homme, c'est un Dieu qui parle. Et puis nous lisons, et je mettrai le verset, au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongea des vers. Les historiens disent que c'était une mort très, 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 très douloureuse et horrible qu'il a eue. Il n'est pas tous les jours que Dieu frappe les gens de mort, comme il a fait d'une manière assez publique de Hérode, ou comme il a fait avec Ananias et Saphir en chapitre 5, n'est-ce pas? Quand ils voulaient chercher pour eux-mêmes la gloire de prétendre qu'ils avaient donné la totalité d'un certain don, et ils n'avaient donné qu'une partie, en gardant un peu pour eux-mêmes, pour que des gens disent « Oh, formidable ces gens, comme ils sacrifient pour l'œuvre de Dieu !» et Dieu leur a frappé de mort, parce qu'ils voulaient se glorifier plutôt que donner la gloire à Dieu. Il n'y a pas beaucoup d'instances comme ça dans la Bible, ou hors de la Bible, mais suffisamment pour que nous puissions avertir en tant que peuple de Dieu, ou en tant que peuple qui ne se voit pas de Dieu, que le jugement viendra plus tôt ou plus tard pour ceux qui terminent par ne pas glorifier Dieu, parce que nous avons été créés pour faire ça, n'est-ce pas? Et donc, nous avons vu la première fois, il y a trois semaines, nous avons vu que Dieu a créé le monde, il a créé l'être humain pour glorifier Dieu. Quoi donc? Que vous mangez, que vous buviez, que vous fassiez quoi que ce soit, vous fassiez tous pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas juste des petites belles phrases qui n'ont pas de sens. C'est la raison pour laquelle on existe. Et si on n'est pas en train d'aller dans la direction de la louange et gloire du Seigneur dans nos vies, nous sommes en train d'aller contre-courant et nous attendons les conséquences d'aller contre-courant, plus tôt ou plus tard. Et donc, nous avons vu la semaine dernière une chose très intéressante que je mets juste comme ça, en tant que révision. Je l'ai mis en anglais et en français pour que les anglophones parmi nous puissent avoir un peu plus de compréhension dessus. Ça, c'est révision. Pourquoi ce monde-ci? Pourquoi la planète Terre? Et la réponse que ces signes, il y avait toutes les divers, moins une seule petite planète Terre. Le sommet de la gloire de Dieu aurait été couvert pour ne jamais être exposé ni aux anges, ni à qui que ce soit, et même pas expérimentalement aux membres de la divinité, de la Trinité. Pourquoi les milliers d'années de histoire humaine sur cette terre? Pourquoi un commencement glorieux, Genèse 1 et 2? Et pourquoi une terrible chute dans le péché, Genèse 3? Et pourquoi une histoire d'Israël à partir du Genèse chapitre 12? Dieu avait choisi Abraham. Et puis une histoire... La venue du Fils de Dieu à travers cette nation, et puis sa mort expiatoire, et puis une résurrection triomphante, la fondation de l'Église, l'histoire des missions mondiales, là où nous sommes aujourd'hui. Pourquoi ce monde? Pourquoi cette histoire? Et la semaine dernière, nous avons trouvé ces quatre points dans la parole de Dieu, quatre choses qui vont ensemble, qui sont inséparables. C'est pour, l'univers existe pour la gloire de Dieu. La raison de l'existence de notre planète, nous avons vu, en plus, bande de détails avec des passages, à la louange de la gloire, de la grâce de Dieu. À la louange de la gloire de la grâce. Grâce, on connaît assez légèrement peut-être une définition qui n'est pas fausse, qui est correcte. La grâce, c'est donner à ceux qui ne méritent pas faveur. Faveur donnée à ceux non méritants. Ça, c'est la grâce. Saviez-vous, avant que Dieu a créé le monde, il n'existait aucune personne. Il n'existait aucune personne qui méritait la grâce. La grâce, c'est pour ceux qui ne méritent pas. Ceux qui existaient jusqu'à présent étaient, si je pouvais le dire, non candidats pour la grâce. Ils n'avaient pas besoin de la grâce. Quand on pense à, comme j'ai dit la semaine dernière, imaginez une grande montagne, mais qui, dans une bonne partie de la montagne, est couverte par des nuages, et vous n'avez jamais vu cette massive montagne incroyable, merveilleuse, de votre point de vue, mais vous n'avez même pas jamais vu la totalité de la maison de la montagne, parce qu'il a été couvert dans l'Ancien Testament. C'était que, à l'arrivée de Jésus-Christ, où Christ est venu pour sauver ceux qui ne le méritaient pas, que la grâce commençait à se dévoiler et les anges qui regardaient depuis ce jour jusqu'à maintenant regardent tous les jours avec un émerveillement qui ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Donc, la grâce est la raison pour la grâce, afin de montrer l'infinie richesse de la grâce par Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre raison d'être. Il a été, avant qu'il est venu, les gens ne comprenaient rien. Mais le peuple de Dieu qui offrait des sacrifices régulièrement, il savait qu'il y avait quelque chose. Il n'avait aucune idée que le Messie qu'il cherchait, c'est celui qui est représenté par l'agneau qu'ils égorgeaient. Leur idée d'un délivreur, d'un sauveur, n'était pas ça du tout. Ils n'acceptaient pas du tout pour la plupart. Et jusqu'à présent, ils n'acceptent pas un Messie comme ça. C'est dégoûtant, c'est contre leur idée d'une majesté et splendeur et royauté d'un roi. Jamais est-ce qu'il pourrait déverser son sang sur une croix nue devant les spectateurs qui raillaient et ridiculisaient. C'est impensable. C'était le dévoilement de la grâce et c'est le dernier mot sur cette liste. Et Paul disait, loin de moi de prêcher rien de Dieu à part la croix de notre Seigneur et Jésus-Christ. Et ça, c'était notre méditation la semaine dernière. Donc, pour dire dans l'ensemble, et je vous avais vu ceci la semaine dernière, mais si vous n'étiez pas là, toute chose sur la terre existe pour la gloire de la grâce de Dieu, suprêmement manifestée dans la mort de Jésus. Pour la gloire de Dieu, pour la gloire de sa grâce, pour la gloire de Christ, pour la gloire de la croix, un lien indissoluble entre ces mots. Toute l'histoire à travers, à partir de l'univers jusqu'à la terre, jusqu'à cette histoire, jusqu'à 2014, existe pour la gloire de Dieu. Et surtout pour que la gloire de Dieu, le sommet de la montagne, les nuages soient enlevés pour voir l'apex qui ne se voit pas dans la distance. Et nous allons traverser ce montagne pendant toute une éternité pour tous les jours être émerveillés. Des gens qui disent, j'ai pas envie d'aller au ciel, de juste jouer sur un arpe pendant toute l'éternité, chantant les louanges de Dieu, j'ai envie de faire autre chose. Oh non, 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 on sera captivés, on sera émerveillés avec un émerveillement qui grandit, qui s'émerveille de plus en plus quand on reconnaît la gloire de notre Seigneur et notre Sauveur, parce que maintenant on est bloqué par notre incapacité de voir le mal de notre péché. Parce que la grâce est en proportion du péché. Pourquoi il est venu? Pour égaliser légalement devant la justice divine de Dieu. Alors, la question que nous avions eue, et je le remets, comment donc faire pour glorifier Dieu? Je vais expliquer pourquoi j'ai mis le titre de cette manière tout à l'heure. Je veux que nous voyions deux passages ce matin, un passage qui est tellement connu, qu'il est souvent cité, mais moins souvent peut-être analysé et étudié pour reconnaître ce qui est dedans. On va le lire. Est-ce que vous pouvez tous voir cela? Peut-être on peut lire ensemble, à haute voix, ce que vous avez ici. On ne fait pas souvent cela parce qu'il y a plusieurs versions de la Bible qui tournent entre nous. Mais si on lit la même chose ici, on va la lire lentement. Matthieu chapitre 5, verset 14 jusqu'à 16. Lisons ensemble. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et n'est pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur les chandeliers, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant, afin que vous voyiez vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Verset que vous avez tous probablement, à moins que vous n'êtes jamais venu à l'église, ça arrive assez souvent qu'on a des gens qui ne sont jamais entendu la Bible. Peut-être ce verset n'est pas connu pour vous si vous êtes parmi nous, mais j'espère que vous écouterez aussi et cherchez à comprendre. Parce que dans ce passage, nous avons une clé qui correspondent avec la raison d'être pour laquelle nous avons été créés. Notez la première proposition, vous avez une proposition, vous êtes la lumière du monde, point. Ce n'est pas un commandement, ce n'est pas une suggestion, c'est juste une simple déclaration de la réalité. Il n'est pas dit ici, allez-y, soyez une lumière. Jésus qui parle à ses disciples et à tous ses disciples après, parce que ce n'est pas tout le monde, c'est les disciples de Dieu qui sont la lumière du monde. S'il n'y a pas cette lumière, il n'y a pas de lumière. Donc vous êtes la lumière. Vous brillez mal, vous brillez faiblement, vous brillez fort, vous brillez clair. Il n'y a que cette lumière que Dieu utilise pour illuminer et éclairer. Vous êtes la lumière du monde. Point. Deuxième proposition. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Quelle est la relation entre ces deux? Il semble être l'un pas connecté à l'autre. Troisième proposition, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. A, de la troisième proposition. B, mais on le met sur le chandelier. Et C, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Voilà, si nous n'avons que ça, on va gratter la tête pour savoir pourquoi, d'accord, c'est vrai, c'est un truisme qu'une ville située sur une montagne est impossible pour que ça soit invisible. On le voit, on ne peut pas ne pas voir. Et il est vrai, ça va sans dire, qu'on n'allume pas une lampe et puis le met sur un boisseau. Et votre lampe aussi n'a pas été mise sur un boisseau, parce qu'une lampe est là pour éclairer. Souvent nous entendons que nous pouvons mettre notre lampe sur un boisseau, je ne crois pas que ça c'est l'enseignement du passage. Cela est en train de constater certaines réalités et de les comparer avec la lumière du monde qui est l'état réel de chaque disciple de Dieu. Vous êtes, dit-il, la lumière du monde. Et il va dire, après avoir donné ces illustrations un peu, avec un peu de confusion, peut-être, et puis après, donc, que votre lumière luise ainsi, le mot ainsi, c'est un mot très important. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis le titre du message comme je l'ai mis, plutôt que comme j'avais mis au début. J'avais mis « quoi faire ». Ce verset ne répond pas à « quoi faire ». Ce verset répond à « comment faire ». Que votre lumière luise ainsi, votre lumière qui luise, votre lumière qui est incachable, votre lumière qui est comme une ville plantée sur une colline, que ce soit la journée, que ce soit la nuit, avec des feux, maintenant avec l'électricité. C'est merveilleux en voyageant de voir des villages ou même une seule maison sur une colline, la nuit ou le jour, si c'est beau. On est attiré vers cela. Ça, c'est le cas. Vous êtes comme une montagne située sur, comme une montagne située sur une colline, pas une montagne dans la vallée, une montagne qui est plus visible que d'autres, une ville qui est plus visible que d'autres villes. Et c'est vous. Donc, que cette lumière qui brille sur son chandelier, verset 15, parce que impossible de le cacher sur un boisseau, que cette lumière brille ainsi devant les hommes, parce qu'il brille et luise devant les hommes, d'une manière que, et ça c'est l'idée qui est dit, donc reconnaissant que vous êtes lumière du monde, reconnaissant maintenant avec deux illustrations qui ne sont pas attachées jusqu'à ce que vous vous attachiez de première avec la dernière phrase. Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise ainsi. Vu le fait que votre lumière est comme une ville sur une montagne qui est impossible de cacher, vu que votre lumière est comme une lumière sur un chandelier et pas couvert comme un boison, ou vous l'aimez ou pas l'aimez, votre lumière luise d'une manière que des gens sont informés de la gloire de Dieu. Mal ou pas mal. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, parce que le but de vous en tant que lumière, c'est afin qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Donc il est assumé plusieurs choses. Votre lumière est comme une ville plantée sur une colline. Votre lumière est comme une lampe dans un chandelier. Vous l'aimez ou vous l'aimez pas, vous voulez ou vous ne voulez pas. Votre lumière sera visible. Ça va luire quelque chose. Que ça vise d'une manière pour que les hommes s'arrêtent de faire ce qu'ils font et qui, au lieu de se glorifier eux-mêmes, ils glorifient Dieu. Comment? À travers les bonnes œuvres. À travers les bonnes œuvres, on a souvent du mal à parler des bonnes œuvres parce qu'en tant que chrétien, nous savons qu'on n'est pas justifié par des bonnes œuvres, on est justifié par la foi, et la foi seule, rien que la foi, elle peut, la foi dans l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix, puisse justifier un croyant. Pas un œuvrant, parce qu'il n'y a aucune personne qui a œuvré au niveau où la loi peut dire « ça y est, vous êtes innocenté parce qu'après rechercher toute la loi, vous n'êtes pas égarant, violent dans aucune chose du tout. Innocenté, aucune personne sauf une pourrait être justifiée par la loi. Pas nous. Mais Dieu. Et donc, on n'est pas sauvé par des bonnes œuvres purement parce que on n'a pas des bonnes œuvres suffisantes pour se sauver. Question, théoriquement, est-ce possible que quelqu'un soit sauvé par la loi? Réponse, oui. Théoriquement, oui. Et pratiquement, oui, parce qu'il n'y avait qu'une seule, personne, mais il y avait une personne qui a été justifié par la loi, afin que nous qui croyons, Romains chapitre 4, fois après fois après fois, puissent être justifiés par la foi. Justifiés par la foi. Mais pourquoi avons-nous été créés? Pourquoi est-ce que... Oui, pour sa gloire. D'accord. Comment est-ce que nous pouvons glorifier Dieu? Nous sommes créés pour sa gloire, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, quoi que ce soit ces bonnes œuvres, on était créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Question de pratiquer, question d'être un ouvrage qui pratique. Ou bien 1 Pierre, chapitre 2, et verset 12.
1 Pierre 2, verset 12. Ayez
au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres. Il glorifie Dieu au jour où il les visitera. Très intéressant, j'ai noté aujourd'hui, quand Annie et moi ont lu le dernier chapitre de Actes des Apôtres dans notre lecture quotidienne, au début de l'acte de l'Église. Dieu a gracieusement protégé l'Église, qu'ils avaient leurs problèmes, ils avaient leur opposition, et beaucoup. Mais l'Église grandissait. Le Seigneur a mis l'Évangile en faveur des gens autour, et des gens, même ceux qui ne croyaient pas, laissaient vivre ceux qui croyaient parce qu'ils étaient impressionnés par l'Évangile. Et la Bible dit ça, malgré les grandes oppositions qu'il faisait. Mais à la fin, les gens qui venaient à Paul dans la prison où il était, quand l'acte va terminer, disaient, nous avons entendu parler de cette foi de la gauche et de la droite, et tous par mal de cette foi. Et c'était l'époque où les chrétiens sous Néron étaient en train d'être jetés par des dizaines, par des douzaines, par des centaines, dans le feu, dans les lions, massacrés. Exterminer était toujours l'intention, et à travers l'histoire du monde, ça a souvent été systématiquement l'intention des ennemis du peuple de Dieu. Mais il vous remarque vos bonnes œuvres, et il glorifie Dieu au jour où il les visitera. Je ne vais pas vous demander de lever la main. Mais j'entends très souvent à travers la vie des gens qui ont reçu l'Évangile, qui ont méprisé l'Évangile, qui ont ridiculisé les serviteurs de Dieu, celui qui témoignait de sa foi en Jésus-Christ, les membres de la famille qui ont été divisés en deux, et ceux qui connaissaient le Seigneur cherchaient à témoigner d'une manière comme Christ, pas comme il faisait avant. Pas pour chercher leur propre gloire, mais pour que Dieu puisse, à travers le plaidoirie humble, respectueux, changer les personnes qui sautaient sur leur avantage de cette personne qui savait bien n'allait pas se réagir et donc qui faisait encore plus misérable leur vie. La personne est morte, partie. Le jour arrive où eux, ils sont visités par la peine, par la tribulation, par la difficulté simplement de l'âge, ils commencent à se rappeler. Et dans leur propre trouble maintenant, ils reconnaissent c'est Dieu. Et eux-mêmes, ils glorifient Dieu. Avez-vous entendu des témoignages des gens qui sont dans la bergerie du Seigneur parce que, ayant méprisé, ayant maltraité, des chrétiens, ils terminaient dans leur propre jour de visitation, si vous voulez, de peine et de difficulté et d'abandonnement de tous, quand ils se sentaient absolument seuls. Ils avaient des amis, parce qu'ils avaient de l'argent dans beaucoup de cas. Ils avaient de popularité, mais tout ça passe. Et dans les dernières années, des plus grandes, des personnes très 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 connues, On n'entend pas parler d'eux. Ils sont au lit, ils sont cachés, ils sont affaiblis à 100%. Ils sont à la disposition de chaque personne. Ils ont changé les couches de leurs enfants quand ils étaient petits ou ils avaient des serviteurs qui faisaient cela. Maintenant, ils doivent se rester pendant que les gens changent leurs couches parce qu'ils ne peuvent rien faire. 800, il y a 10 ans. Et pendant 10 ans, le public ne l'entend pas du tout. On entend simplement le jour de sa mort. Et on se rappelle des jours avant, où il était glorieux. On fait un dernier effort de glorifier cette personne avant qu'il soit enterré. Et le monde va passer à l'écart pour continuer leur recherche de gloire. Tourne en ronde l'homme qui fait ça. Ils vont le faire. Dans Tite chapitre 2, verset 14, Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Chers amis, il y a beaucoup de versets, je n'ai mis que 4, il y en a encore un. qui démontre le fait que nous sommes ici pour faire des bonnes œuvres. On minimise cela, ceci simplement parce que nous voulons mettre l'accent que beaucoup de monde qui cherche à être sauvé par des bonnes œuvres risque à mal comprendre, parce que les bonnes œuvres ne se sauvent pas. Mais on est créé pour qu'on travaille. Un dernier verset dessus, cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses, Tite, dit l'apôtre Paul, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Et on revient donc à notre texte. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Alors, ça a l'air de dire, comme ça c'est le but. Mais en réalité, grammaticalement, ça pourrait être traduit en fait que voyant vos bonnes œuvres, il y a sans doute certaines traductions qui traduisent comme ça, il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Les œuvres d'un chrétien ou de qui que ce soit sont incachables, et surtout un chrétien. Avez-vous jamais remarqué, si vous êtes même juste un petit témoin timide pour le Seigneur, comme les gens autour de vous se lèvent avec deux différents standards de moralité? Ils ont une certaine moralité pour eux où ils s'excusent facilement. Ils ont une autre moralité pour vous. Ils ne vous excusent même pas, ce qui est bien indécis leur propre moralité. Vous n'êtes pas excusé. Vous êtes condamné. Vous êtes visé. On cherche à vous faire fermer la bouche. Ils se sentent mal à l'aise dans la présence de ceux qui reconnaissent comme vivant avec une puissance et une capacité qui n'est pas la leur, avec un abandon de leur propre égocentrisme. Ils s'excusent, l'égocentrisme. Ils font des fêtes, ils font des olympiques, ils font des sports, ils font tous pour promouvoir l'adoration de la meilleure personne. Dieu n'est pas dedans. On rêve si on ne peut pas le faire. En réalité, on peut le faire dans la tête. On rêve ça pour nous-mêmes. On rêve plein de choses pour nous-mêmes. Et si jamais on dit quelque chose de bien, on écoute encore, on magnifie cette petite remarque modeste, favorable de notre caractère ou de quoi que ce soit. Oui, je vois quelques sourires parce que vous savez très très bien que je sais ce que je dis, parce que c'est votre problème, n'est-ce pas? C'est le problème de l'humanité. Depuis le tour de Babel où il était bien annoncé, faisons un nom pour nous-mêmes. Dieu dit, non, vous n'allez pas faire un nom pour vous-même, chapitre prochain. Et je vais faire un nom pour Abraham. Mais tout le monde va savoir, c'est pas Abraham qui se faisait son nom, c'est moi qui le fais son nom, pour la gloire de moi, pour faire sa nation, pour faire sortir le présenteur de la grâce après qu'il est sur la croix horrible, mais où les étoiles commencent à se voir à travers, au-dessus, les nuages sur la grande montagne de la grâce de Dieu. Donc, nous devrions comprendre et observer quelque chose. Il y a ici, pas comme cause de votre salut, mais comme possibilité de votre salut, un comportement dedans. Que votre lumière luise, chers amis, donc un chrétien n'est pas un voleur des banques, un chrétien publiquement n'est pas un menteur. Un chrétien, normalement, fera des actes qui sont plus élevés que beaucoup de gens autour de lui. Les bonnes œuvres sont toujours applaudies. Il n'y a jamais eu une époque ou même aucune société qui n'applaudisse pas des bonnes œuvres. Mais ça s'arrête à la personne qui a commis des bonnes œuvres. ça ne devrait pas, il faut s'arrêter de commettre des bonnes œuvres. Au contraire, on est créé pour faire des bonnes œuvres. Parce que c'est à travers des bonnes œuvres que Dieu est glorifié, à travers celui qui... Parce que la personne, l'égocentrisme de la personne est mise à côté pour que Dieu soit manifesté comme la seule personne méritante de gloire. Il y a un certain comportement qui est assumé, qui est attendu. Et il y a aussi une certaine préoccupation. Le chrétien qui est un disciple de Jésus-Christ par le sang de Christ qu'il avait sauvé, en qui il a cru, a une préoccupation que d'autres ne l'ont pas. Tout le monde est préoccupé. Mais tout le monde est préoccupé de moi. C'est comme je dis souvent, chacun est le centre de l'univers. L'univers n'est pas sur là où est Lala. L'univers est 3 mètres de loin de Lala, ici, dans mon cœur. Ça, c'est le centre de l'univers. Chacun est né comme le centre de l'univers dans sa tête, dans ses pensées déchues, déformées et pervers. On réserve la perversion pour certaines choses. Nous sommes nés pervers. Nous sommes nés concentrés sur toi. Depuis le premier cri pour manger, et après le premier cri, le cri pour colère, et ça se monte de tous endroits. On s'habitue à manipuler les personnes autour de nous pour que le moi règne et soit glorifié et soit mis en avance. Tout le monde a des préoccupations. Le chrétien a une préoccupation. C'est la même chose. C'est les bonnes œuvres. Des gens cherchent à faire des bonnes œuvres. Le chrétien cherche à faire des bonnes œuvres. Mais ce n'est pas le quoi, c'est le comment. C'est pour cela que je dis comment faire plutôt que quoi faire. Quoi faire est beaucoup de temps. Mais il y a beaucoup de gens qui font des bonnes œuvres, mais qui ne le font pas pour la gloire de Dieu. Et qui seront vus avec la même sévérité d'un Dieu de justice que celui qui n'a fait rien du tout que la perversité pour soi. Son nom n'est pas sur la liste des gens altruistes qui ont donné des millions aux pauvres, qui ont formé des sociétés pour que la pauvreté soit élevée dans une communauté ou mondialement comme ça se fait aujourd'hui. Cette personne sera vue avec la même sévérité. Rien qui a été fait n'a été fait que pour l'avoir de soi et pas de Dieu. Et nous existons pour l'avoir de Dieu. Par contre, cette troisième chose, l'authenticité, comment distinguer entre ceux qui font pour soi et ceux qui font pour le Seigneur? Alors ça, c'est un grand problème, n'est-ce pas? Ça, c'est une chose que nous avons du mal souvent à voir. Où que ce soit, existe la piété, existe aussi ceux qui regardent des cieux et qui fabriquent une contrefaçon qui paraît la même. Le monde est capable, à l'extérieur, de reproduire à l'extérieur ce qu'il voit à l'extérieur. Même à imiter la tonalité de et la pathos et de ethos de la personne, de des différentes personnes, le monde peut faire ça. Toutes les religions pratiquent enseigner comment agir d'une certaine manière émotionnellement pour que tu puisses te dire, ah, ils disent pas peut-être ainsi, tu puisses te sentir bien de toi, bien de soi, parce que tu exprimes à l'intérieur un mystère. Sentiment de piété, de spiritualité. Le monde fait ça tout le temps, sans arrêt. On est automatiquement des gens comme ça. L'éternité a été écrite dans le cœur de chacun, le livre de Ecclésiaste dit. Que votre lumière luise devant les hommes faut qu'il y a une reconnaissance non articulée, non dite, où ils reconnaissent sa raison d'être, ma raison d'être, ne sont pas les mêmes. Une dame qui donnait 2 petites centimes, Jésus disait, elle a donné beaucoup plus que cette personne qui donnait des millions. Parce que lui, il faisait au moment où tout le monde était là. Ou s'il ne le faisait pas, il faisait par enveloppe anonyme. Parce que dans sa tête, il disait, Dieu doit être content de moi. Parce qu'il sait que j'ai donné 1 million. Ou 100. Ou 10 euros. Ou quoi que ce soit. Chers amis, inéchappable. Il n'est pas possible que l'homme, sans la délivrance de l'Évangile, puisse changer sur les rails de glorification de soi. Il est captif avant que Dieu le délivre. Et Dieu délivre ses disciples. Dieu délivre tous les jours. Et il dit maintenant, je vais vous donner quelque chose qui va vous rendre capable de glorifier moi en toutes choses, d'être mal compris par le monde, combien les chrétiens, même très humbles, ont été accusés d'orgueil. En fin de compte, il y a même des scientifiques, combien naïfs et arrogants de penser que cette petite planète, et nous sommes très intelligents pour comprendre l'ampleur de l'univers que vous ne le connaissiez pas parce que vous n'avez pas fait des études comme ça, et vous, dans votre simplicité, et dans notre naïveté, et dans votre arrogance, pense que le créateur de tout cela peut viser une petite planète qui s'appelle Terre, et venez sur la planète, et venez avec Google Zoom, et entrez dans votre chambre, et s'en occuper de toi personnellement. C'est arrogant, profond. Voilà, vous allez être mal compris, mal interprété, mal vu, délibérément mal vu souvent, parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez exonérés. Sinon, votre exonération serait une condamnation. Et en fin de compte, le chrétien sait, j'attends pas mon exonération ici, je sais que ça m'attend dans l'avenir. Authenticité, donc il est vrai, il faut reconnaître, même avec ce passage, il y a des bons œuvres qui se font, mais qui ne sont pas authentiques. Et nous devrions avoir des œuvres authentiques. Le deuxième passage que je voudrais que nous remarquions assez rapidement avant de terminer. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Et juste rapidement, un bon passage qui répond aussi à cette question, comment ça se fait? Comme de bons dispensateurs des diverses grâces. Diverses grâces, donc je comprends par cela que chaque chrétien est doué d'une certaine grâce que d'autres ne l'ont pas, et d'autres sont doués d'une certaine grâce qu'il ne l'a pas. Les grâces variées, les dons variés que Dieu donne à chacun, mais pas pour lui. Bon dispensateur, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il met au service, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, en tant que riche, il faut que tu donnes un certain pourcentage pour que tu renvoies en Afrique où il y a l'Ebola pour qu'il puisse gagner. C'est méritant, c'est formidable, ça donne des points de moralité devant Dieu. Oh, beaucoup qui font ça. Ce n'est pas ce qui est enseigné. Parce que quand Jésus disait aux pharisiens Non, à l'avocat qui lui demande par rapport à l'importance de chaque loi, et dont il y en a 615, je crois. Quel est le plus important de ce 615? On n'a pas dit 615, mais les rabbis disaient, ils sont 615. Quel est le plus grand? Jésus dit, en fin de compte, il n'y a qu'une seule. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton être. Ah oui, il y a un deuxième. Attaché, mais subordonné, aimer ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Ça ne veut pas dire aime toi-même. Non, il est assumé que tu t'aimes. Peu importe ce que disent les psychologues ou beaucoup de gens, il faut que tu apprennes à t'aimer. Tout le monde s'aime trop, sans exception. Tout le monde s'aime. Oh, ils n'aiment pas leurs difficultés. Ils n'aiment pas leurs inhibitions. Ils n'aiment pas les handicaps qu'ils se sentent. Ils n'aiment pas qu'ils sont moins intelligents ou moins beaux ou moins astutes ou moins quoi que ce soit que quelqu'un d'autre. Je me déteste. Non, 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 tu ne détestes pas. Tu détestes ton créateur parce que tu t'aimes. Et tu n'aimes pas la personne qui t'a fait, mais tu t'aimes en colère avec le Créateur qui n'a pas créé comme tu aurais voulu afin que tu puisses profiter au maximum de la gloire que tu recevrais si jamais tu pourrais te faire être comme tu voulais être créé. Dieu t'a pas créé comme ça. Mais franchement, je doute qu'il y a personne qui disait, quand tu regardes dans le miroir, si je pourrais changer quelque chose, je le ferais. La preuve, vous passez des moments devant le miroir, n'est-ce pas? Vous essayez de changer votre mime, votre aspect. Vous n'êtes pas content. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Quelqu'un a dit, si le bâtiment est en mal état et en mauvais état, c'est des sales, mets de la peinture. D'accord, allez-y, mets de la peinture. Mais il faut, on est introverti envers nous-mêmes. Et toutes ces expressions d'extrovert sont des l'hypocrisie de la personne derrière la façade qui cherche sa propre gloire. J'avais souligné ici, grâce que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, il a déjà reconnaît son autorité Dieu et il se donne à Dieu. Et maintenant, aux autres, si quelqu'un parle, eh bien, oui, quelqu'un parle. Qui c'est ici qui n'a jamais parlé? Si quelqu'un parle, que ce soit comme, encore une autre chose, je ne sais pas quoi faire, mais comment faire, et ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, ah, ce qu'il fait. On parle, on fait. On parle, on fait. C'est tout. On parle, on fait. Si quelqu'un parle, qu'il parle d'une certaine manière. Si quelqu'un fait, il ministre d'une certaine manière. Ah, la clé, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Sans savoir, tous existent et font selon la force que Dieu leur avait donnée. Personne ne peut pas lever le bras sans que Dieu donne la force de lever le bras. Est-ce que la plupart des gens vont admettre ça? Je suis, en anglais, I am a self-made man. Je suis un homme qui se fait soi-même. On dit ça. Mais le chrétien sache qu'il a une force que Dieu communique. Regardez, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. de choses assumées, ce qu'on parle. Chose assumée, c'est qu'on va faire des œuvres dans un ministère même aux autres. Des choses qui doivent être comprises. C'est que Dieu remplisse de force son serviteur pour que les obstacles de égocentrisme puissent être remplacés par la gloire de Dieu et le vouloir de faire ce qu'il a fait. Vos études, vous les étudiants, votre profession, vous des professionnels, votre famille, vous des pères et mères, vos parents, vous les enfants des parents, qui n'est pas un parent d'un enfant, que tout ce que vous buvez, que vous mangez, que vous fassiez quoi que ce soit, que vous jouiez au foot, soit dans une atmosphère, dans une attitude, dans une mentalité qui ne cherche pas la gloire pour soi, mais pour Dieu. C'est merveilleux. Ce verset pour terminer. Abraham ne doutait pas, point. Rappelez, il y a quelques semaines, quand on parlait d'Abraham, je le mentionnais déjà. Dieu abolissait ou dérangeait le travail du tour de Babel pour choisir un homme et se dire « Je ferai de ton nom grand ». Tous les gens jusqu'à la fin vont te bénir. S'ils prosternent devant toi, ce n'est pas parce que tu demandais l'exaltation de soi. Ils vont glorifier Dieu. Abraham ne douta pas. Aucune promesse, une tradition que j'aimais beaucoup, Abraham a refusé de douter pour une seule seconde. C'est moi qui ajoute une seule seconde. Il refusa de douter dans aucune promesse de Dieu. Ça traite de l'incrédulité. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Quand vous rentrez dans la raison d'être de votre, dans une compréhension de votre raison d'être, c'est un peu comme vous vivez derrière une mist, puis à un moment donné, vous voyez en 3D et tout est clair. Et même avec ça, nous voyons comme à travers un miroir, difficilement. Mais nous voyons, et de plus en plus clair, à travers la parole de Dieu, à travers la communion fraternelle des frères et sœurs en Christ, jusqu'au jour où on sera pendant toute l'éternité avec le Seigneur.